SBS Radio.
Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le plaisir d'être avec le pianiste et compositeur australien Chris Cody, qui va nous parler de son spectacle qui s'appelle Astrolabe. C'est donc le nom du bateau sur lequel Jean-François de la Pérouse a navigué autour de l'Australie. Il est arrivé un peu après les Anglais et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Australie est un pays anglophone. Et puis quelques jours plus tard, il a disparu sans qu'on ait de nouvelles de lui. C'est un mystère qui est resté très épais pendant des décennies, même des siècles. Voilà, donc bonjour Chris Cody.
Bonjour.
Votre spectacle s'inspire donc directement de cette expédition réalisée il y a maintenant plus de 200 ans par Jean-François de la Pérouse. En quoi cette expédition vous a-t-elle inspiré ?
J'avais déjà entendu parler de la Pérouse, mais c'était surtout, j'ai vécu 22 ans à Paris en France, et c'était en revenant vivre à Sydney en Australie il y a 4 ans, et me trouvant à Maroubra, j'habite Maroubra, qui est juste à côté de la banlieue La Pérouse. Je me suis dit, ah, il faut que je me renseigne un peu plus. Je suis allé au musée La Pérouse d'abord, et aussi je regardais sur Internet, et j'ai commencé à lire des choses. Et plus que je lisais, plus que j'ai découvert des choses, plus que je trouvais des résonances avec ma propre histoire, c'est-à-dire être un peu entre deux cultures, me poser des questions sur l'identité, la migration, les cultures et les peuples différents, et même éventuellement notre propre disparition. Le fait qu'il a disparu, et comme vous avez dit dans votre introduction, c'était des longues années avant de réellement savoir ce qui s'est passé, et aussi le fait que, en effet, l'Australie aurait pu être française, ça m'a intrigué. Et je voulais en savoir plus, et surtout ça m'a inspiré. Je cherchais justement un sujet pour composer de la nouvelle musique, et je trouvais que ce sujet était très riche dans plusieurs sens, avec des couleurs, des ambiances différentes, le voyage. Je cherche pas évidemment à le représenter trop réellement, mais il y a suffisamment de matériel de quoi m'inspirer.
Moi, ce qui m'intrigue en tant que non-musicien, c'est qu'effectivement, c'est une histoire assez épique, comme la plupart de ces expéditions au XVIIIe siècle, où on avait ces Européens qui partaient pour l'inconnu. Hein, ils ne savaient pas où ils atterrissaient, sur qui ils allaient tomber, si ça allait bien se passer ou pas. Et d'ailleurs, pour Jean-François de la Pérouse, ça ne s'est pas très, très bien terminé. Comment on traduit une histoire comme celle-ci musicalement?
Mais d'abord, je regardais les pays où il est allé, justement le Chili, l'île de Pâques, jusqu'en Alaska, dans le nord du Pacifique, la Californie. Tous ces pays représentaient des cultures et peut-être des sons, des musiques différentes. Il a été surtout connu d'avoir fait des cartes sur le Japon et la Corée. Et ça aussi, c'est une musique qui m'a toujours intéressé de toute façon. Avant de descendre dans le Pacifique du Sud, le Samoa, où il a perdu 12 hommes qui ont été massacrés en cherchant de l'eau douce. Il avait déjà aussi perdu des hommes à Alaska, dans les courants, en revenant d'une expédition à terre. Donc, ce sont des éléments qu'on peut en effet traduire en musique, et surtout chercher des sons, des couleurs, des ambiances différentes. Donc c'était surtout ça qui m'inspirait. Je voulais pas raconter le voyage trop littéralement, mais je voulais puiser un peu dans ces terres, ces sons, ces couleurs différentes. Et c'est ce que j'ai fait.
Et alors, vous le disiez tout à l'heure, vous expliquez également que cette expédition de la Pérouse, vous trouvez qu'elle fait un peu écho à votre propre parcours, sauf que vous, ben, vous avez fait l'expédition opposée, vous êtes parti d'Australie vers la France, et puis bon, ben, c'est tant mieux pour vous, mais vous n'avez pas disparu en mer. est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le fait que vous sentez comme un lien entre cette expédition qui a eu lieu
parcours,
il y a 200 ans
ouais.
et votre propre parcours de musicien?
J'ai toujours été francophile. Ma mère était prof de français au lycée ici en Australie. Et on a écouté de la musique française à la maison. On en parlait un petit peu. Et je regardais le cinéma français, j'étais inspiré par les films de Truffaut, de Godard, de Melville, j'aimais les ambiances qu'ils créaient déjà. Je lisais aussi énormément d'écrivains français comme Sartre, Camus, Genet. Donc quand je suis allé une première fois en France pour des vacances, j'avais trouvé la France extraordinaire, fascinante, si riche en histoire et en culture. Et donc j'ai décidé, après avoir fini mes études en musique et en français, de m'y installer. Et donc je suis parti d'Australie, jeune homme, plein d'espoir et de rêves. Et je me suis installé à Paris, je faisais des boeufs, je sortais tous les soirs, écoutais des concerts, rencontrais des musiciens. Et j'ai commencé à trouver des dates, des contrats moi-même en tant que pianiste, et je suis resté. Donc j'ai vécu longtemps, j'ai eu une carrière où j'ai eu la chance de jouer un peu partout en Europe. J'ai rencontré des musiciens français, bien sûr, mais aussi des musiciens africains, arabes, donc c'était plein de rencontres. Après, on cherche toujours des sujets pour s'inspirer. J'ai toujours été compositeur, j'ai sorti pas mal de CD, et c'était surtout en revenant en Australie que j'avais l'impression, oh là là, qu'est-ce que je fais ici, à l'autre bout du monde. Donc, comme vous avez dit, c'était un peu le voyage inversé, d'aller en France, mais après de longues années en France, de revenir en Australie. Et c'est ça qui m'a fait poser des questions, justement, sur ces questions toujours très pertinentes aujourd'hui en Australie, sur l'identité, la migration, nos contacts avec nos voisins, avec d'autres peuples, d'autres cultures. Et donc c'est pour ça que j'avais composé cette suite. Je voulais également composer quelque chose pour un plus large ensemble. Donc il y a 8 musiciens qui jouent 12 instruments. Et je voulais faire de sortir un peu du CD, de l'album, de la musique classique, du jazz, souvent pour trio, quartet, quintet. Donc voilà, ça c'est juste un peu pour expliquer mon parcours.
On va revenir sur le spectacle un peu plus tard, mais je rebondis sur ce que vous disiez au tout début, que vous êtes depuis toujours assez francophile. Vous nous parliez de cinéastes qui vous ont inspiré sur le champ musical, sans parler précisément de ceux avec qui vous avez directement travaillé. Quels sont les artistes musicaux français qui vous plaisent le plus? Qu'est-ce que vous écoutez
Oh, il y en a beaucoup. C'est marrant parce que justement, pour revenir au cinéma, moi j'avais été très touché par le film L'ascenseur à l'échafaud de Louis Malle. Et j'avais adoré ce film, une bande sonore avec Miles Davis à la trompette, mais il y avait René Utreger au piano, que j'ai rencontré par la suite à Paris. Donc ce chic, ce cool français qui était manifesté dans ces films-là, dans les romans, dans la musique, j'avais trouvé, à l'époque, de toute façon, j'étais jeune homme, ça m'a vraiment, ça m'a plu énormément, ça m'a impressionné. Mais après, oui, à Paris, il y a beaucoup de grands jazzmen. J'ai essayé d'écouter tout le monde. Dans le moderne, il y a Michel Portal, bien sûr, et Martial Solal. Il y a aussi des musiciens un peu plus classiques. Il y a des accordionnistes. J'ai joué justement avec l'accordionniste de Jacques Brel. Ça, c'était un grand moment pour moi d'avoir joué avec Marcel Azola. On entend Brel dans un enregistrement où il dit « Chauffe, chauffe, Marcel !» Donc, de jouer des années plus tard avec cet accordéoniste, c'était formidable. J'ai aussi eu la chance de jouer avec Michel Jonas, que j'apprécie beaucoup en tant que chanteur, mais aussi être humain. J'ai joué avec Carla Bruni aussi, qui était très, très en vue à l'époque, parce qu'elle c'était la première dame de la France. La France est très riche pour le jazz. Il y a plus de 450 festivals de jazz, mais aussi des centres culturels, des salles de concert, des églises qui programment des concerts de jazz. Donc c'est quand même plus riche et plus large que ce qu'on trouve en Australie.
Vous le disiez un peu plus tôt, vous avez travaillé avec de très grands noms, alors des Français, vous citiez Michel Jonas, Carla Bruni, mais aussi vraiment des légendes, hein, je pense à Roy Hargrove, Jason Marsalis. Parmi tous ces artistes, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui vous ont particulièrement marqué, auprès de qui vous avez vraiment appris, et peut-être que vous êtes construit musicalement?
Probablement avec les musiciens d'un de mes quartets, avec qui j'ai joué pendant des années, on a sorti plusieurs CD, c'est-à-dire Glenn Ferris au trombone, l'américain Glenn Ferris, qui a travaillé avec des big bands, mais aussi avec des quartets, avec Henri Texier. Il a travaillé avec tout le monde, en fait, parce que c'est un très, très bon tromboniste avec un son superbe, mais il a une facilité de jouer, d'improviser, où c'est toujours proche de la voix humaine. On a toujours l'impression que c'est facile, que c'est mélodique, et que c'est facile à écouter, mais même dans des morceaux très compliqués et complexes sur le plan rythmique ou harmonique. Donc Glenn Ferry, c'est sûr, il m'a influencé dans ces démarches, en fait. Aussi le batteur John Betch, joue toujours avec beaucoup de musiciens. Avec lui, c'était surtout ce jeu plein de surprises, de variations. Il pourrait jouer très fort, très doucement, mais toujours très à l'écoute de la musique et toujours en cherchant de se prendre et rester ludique. Ça, c'est quelque chose que j'essaie toujours de garder avec moi quand je joue avec d'autres musiciens, avec d'autres formations, de ne pas oublier que la musique, ça devrait aussi être ludique, qu'il y a de l'humour dans la musique, de la sensualité. Il y a beaucoup de jazzmen qui deviennent un peu trop obsédés par la technique, par les notes, par la construction du solo, dans quelque sens l'artifice. Et moi, je trouve qu'il faut jamais oublier oui, le côté ludique, drôle, même enfantin, qu'on peut exprimer beaucoup de choses, et l'émotion, l'énergie. Et l'énergie, ça ne veut pas dire forcément jouer fort, mais simplement jouer avec beaucoup de concentration et de focus.
Alors, on va revenir un petit peu quand même sur votre spectacle. C'est un spectacle, bien sûr, avant tout musical, mais je crois qu'on en prend aussi plein les yeux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir ?
En tout, il y a 9 morceaux de musique, donc c'est une suite de morceaux. Il y a du jazz, certes, dedans, mais il y a aussi un ou deux morceaux qui sont très classiques. Il y a un morceau dans un style japonais pour la flûte traversière. Donc il y a pas mal de couleurs et de textures et de styles différents. Aussi, évidemment, des éléments de musique du monde. Je commence avec une référence, ça s'appelle justement Mundus Fatus, où j'essaie de capter un peu cette notion d'une Europe riche, vieille, mais aussi qui a besoin de chercher, de créer de nouveaux horizons. Et voilà, donc il y a ces 9 morceaux, joués par des instruments très divers. Il y a un didgeridoo aussi qui fait apparition, qui représente un peu le contact musicalement entre ces cultures différentes. Et puis j'ai un acteur avec qui je travaille depuis longue date, qui vit à Melbourne, qui monte de Melbourne pour lire des extraits que j'ai traduits moi-même du journal de La Pérouse. Et finalement, il y a aussi des éléments visuels, en effet, il y a des photos et des vidéos, des films de paysages maritimes, de mers, de vagues, de ciel, de nuages qui passent à des moments différents de la journée. Parce qu'il ne faut pas oublier, ces marins étaient en mer pendant 2 ans et demi avant d'arriver à Botany Bay. Tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient vécu, les gens qu'ils ont rencontrés, mais surtout ces images d'espace, de ciel, de mer, que moi j'ai toujours trouvé fascinant. Surtout maintenant qu'en plus je suis en Australie, je vis à Maroubra, près de la mer. C'est quelque chose qui m'a toujours manqué quand j'étais à Paris. Donc je voulais absolument exploiter ces images-là pour le concert. Donc voilà, c'est un concert, une expérience théâtrale, un peu immersif, un peu multimédia.
Le jazz dans le grand public, c'est un peu comme la musique classique, ça fait parfois un peu peur, on a l'image d'une musique un peu d'expert, ouais. Où il faut être vraiment très pointu pour apprécier. Vous, en tant que spécialiste de ce style musical, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qu'est-ce que vous conseilleriez d'écouter pour une introduction au jazz ?
Vous savez, je pense que tout le monde connaît un petit peu le jazz, mais sans le savoir, en fait. Première chose. Par exemple, la musique de Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong a influencé des générations, je pense à mes parents, mes grands-parents. Le jazz est omniprésent, mais peut-être pas tout le monde se rend compte que c'est du jazz. Mais après, si on veut être un peu plus puriste, il y a, moi je trouve toujours que Miles Davis, c'est formidable ce qu'il fait, avec des styles très différents. Son album Kind of Blue, pour moi, c'est l'un des meilleurs albums de jazz jamais enregistrés. Ça serait un album sûrement que je prendrais avec moi sur l'île déserte mythique. Si j'étais justement naufragé dans le Pacifique comme la Pérouse. Moi, j'adore John Coltrane, mais ça, c'est un peu plus difficile d'accès pour beaucoup de gens. Stan Getz et toute la musique bossa nova, le jazz bossa nova, la fille d'Ipanema, tout ça, qui a été rendu célèbre par la suite, ça, c'est aussi très accessible. Et après, dans les musiciens purs ou instrumentistes, Duke Ellington, Thelonious Monk, et après, peut-être plus récent que ça encore, Herbie Hancock, Keith Jarrett, Brad Meldo, et les grands saxophonistes comme Charlie Parker, oui, John Coltrane, Dexter Gordon qui a vécu justement à Paris.
Merci beaucoup Chris Cody. J'ai une dernière petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner les informations pratiques concernant votre spectacle? C'est quand? C'est où?
Alors c'est le 11 août, dimanche 11 août à 3h de l'après-midi à Riverside Theatres à Parramatta. Et leur site web, je viens le mettre sur l'ordinateur, c'est riversideparramatta.com.au.
Voilà, c'était donc Chris Cody qui nous parlait de son spectacle Astrolabe Suite pour la Pérouse, dont je vous propose d'écouter tout de suite un extrait.
Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.